Les 4 plus gros mensonges sur la randonnée et le trekking qu'on va débunker aujourd'hui. Et on va commencer très fort. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as dans ta bourse, ce qui compte, c'est ce que tu as dans tes bourses. Concrètement, le plus gros mensonge sur la rando que j'entends depuis que j'ai commencé la randonnée, c'est, et vous l'avez certainement déjà tous entendu, pour faire de la rando, il faut du matériel cher. Non, 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 ça c'est faux, c'est n'importe quoi. Alors en général, les gens qui m'ont dit ça, ils sortaient du vieux campeur, ils avaient 3000 balles de matos dans le sac et les 15 jours de congés payés qui passent dans les Alpes tous les ans, eh bien ils le passent avec du matos super à la pointe. Alors je suis content pour vous, avoir du bon matos, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable et des fois même c'est la garantie d'avoir une meilleure qualité, mais pas toujours. Mais entre nous, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dans la bourse, sur le compte en banque, c'est ce qu'on a dans le froc, hein, c'est ce qu'on a dans les tripes. Parce que quand j'ai commencé à faire de la randonnée, en 2017, mais vraiment des vrais randos, tu vois, je suis parti marcher 5000 km. J'ai vendu ma baraque, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon job et je suis parti marcher 5000 bornes pendant 6 mois pour commencer ma traversée de l'Europe. Et là, il y a tellement de gens qui m'ont dit « montre-moi ton matos ». Alors, bon, entre nous, je suis né dans un village de 50 habitants, j'ai du bon sens paysan en moi, je suis né dans une ferme, donc un sou, c'est un sou. Et quand je suis parti marcher 6 mois, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un Décathlon et j'ai acheté du matos d'entrée de gamme. Alors oui, c'était un peu débile parce que c'est vrai que quand tu pars marcher 6 mois, tu peux te faire un peu plaisir sur le matos. Mais bon, on ne se refait pas. Mais en même temps, j'ai prouvé au monde qu'en fait, on peut traverser l'Europe à pied, on peut marcher un an, on peut marcher 10 000 km avec du matos Forclaz Décathlon dans le sac. Le sac que tu vois derrière moi, le petit Trek 150 litres EasyFit, il vient de chez Decat, la majorité des fringues que tu vois sur moi, ça vient de chez Decat, etc, etc. Je tiens à préciser d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, mais vidéo de review de matos qu'on trouve sur la chaîne, c'est juste le reflet de la réalité, ce que j'utilise réellement et vraiment sur le terrain. Alors, c'est pas de la faute de ces gens-là s'ils me faisaient ce reproche, et si toi aussi tu penses un peu comme ça, c'est pas de ta faute. Après tout, t'es occidental, donc on t'a appris depuis ton enfance à te dire « quand je me mets à une activité, qu'est-ce que je dois acheter ?» Sauf que, comme disait le vieux sage, on ne peut pas être et avoir. L'idéal, quand tu pars faire de la randonnée, du trek, eh ben, c'est d'être un randonneur et un trekker, et pas d'avoir le super matos, super cher, etc., etc. Les gars qui me disaient ça, depuis maintenant au moins 7 ans que j'entends ces réflexions, ils me disaient en gros, si t'as pas une tente duplex Z-Pack en Dynama à 1000€ la tente une place, ou au pire si t'es un pauvre une EMSR, si t'as pas un jet boil pour ton réchaud, si t'as pas un platypus pour ta poche à eau, si t'as pas un Neolite Air Light machin machin, eh ben ton matos c'est de la merde. Les gars, à nouveau, les gens qui parlent, les gens qui font des choses, moi j'ai traversé l'Europe avec du Forclaz, je vous assure, ça marche très bien. Donc si tu t'inquiètes un petit peu pour te dire « merde, est-ce qu'avec mon matos c'est suffisant ?» Oui, c'est sûr que du matos plus cher, généralement, sera plus léger, parce que plus c'est léger, plus c'est cher, contre-intuitivement, en randonnée, parce qu'on sait tous que le vrai confort, c'est la légèreté. Mais sache que tu peux faire quand même de la randonnée avec du matos, même de moyenne gamme, par exemple de chez Forclaz, mais pas que. Bon, la vidéo commence bien. Là, je sens que je me suis fait des amis. Je pense que la moitié des gens sont en train de kiffer cette vidéo et l'autre moitié est déjà partie ou en train de m'insulter dans les commentaires. Donc, jette un petit coup d'œil sur les commentaires. Je pense qu'on va bien rigoler en regardant un peu ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, bah, n'hésite pas, si tu aimes la randonnée, le trekking, à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire ce que tu en penses. Et on continue avec le deuxième plus gros mensonge sur la randonnée qu'on entend tout le temps. La rando, c'est pour les vieux. Alors ça, c'est sûr que si tu t'inscris dans le club de rando de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, c'est vrai que la moyenne d'âge, elle est parfois un peu élevée. Mais je t'assure qu'il y a aussi des jeunes qui font de la rando. Et les mêmes personnes qui me disaient « oui, tu fais de la rando, c'est naze, c'est pour les vieux », quand je leur dis que je fais du trekking, « ah, trekking, ça c'est pour les jeunes, ça c'est bon », finalement c'est très très bien aussi. Donc tout est une question de point de vue, hein, rando, trek, en fait c'est un peu la même chose. En gros, on joue sur les mots, il n'y a pas que des vieux qui font ça. D'ailleurs, je reprends quand même le début de ces deuxièmes mensonges, c'est vrai qu'à la Fédé et dans les assos de rando, la moyenne d'âge est assez élevée, mais il y a aujourd'hui des assos comme les JRSF, les Jeunes Randonneurs Sans Frontières, qui sont en train d'exploser, donc des associations de jeunes et que de jeunes qui font de la randonnée. Ça marche même plutôt très bien. Il faut pas tout généraliser comme ça. Troisième mensonge sur la rando pendant que le soleil est en train de se coucher derrière la chaîne des Puys, c'est toujours aussi magnifique. J'adore l'Auvergne, les volcans d'Auvergne qu'on voit derrière, le petit Puy de Dôme qui est juste au bout de mon doigt. C'est une de mes destinations préférées. D'ailleurs, j'organise des sorties rando et bivouac organisée avec un guide, c'est moi le guide en l'occurrence, en groupe, en petits groupes pour faire vivre un moment convivial à tous nos participants tous les ans. Donc si ça t'intéresse de venir faire un week-end de 2, 3, 4 jours rando bivouac avec un petit groupe, n'hésite pas à aller voir le lien qui sera en description de cette publication ou peut-être même là-haut. Je fais une quinzaine de dates par an en Auvergne, dans les volcans, mais aussi dans le Morvan, qui est la petite montagne bourguignonne à 2 heures de Paris, et à Fontainebleau. On démarre de Fontainebleau à Vons, comme ça tu peux venir en RER sans problème. Bref, on continue avec le troisième mensonge qu'on entend beaucoup sur la rando. Ça, j'ai notamment beaucoup entendu au début, c'est la randonnée, c'est pas du sport. Alors ça, c'est incroyable. Effectivement, la petite balade du dimanche, tranquillou, en promenant le chien, en marchant à 4 km/h, c'est de l'activité physique, c'est sûr. La moindre marche, c'est 60 kcal dépensées à l'heure, donc c'est de l'activité physique quand même. Et c'est la meilleure activité physique du monde d'ailleurs, les humains en effet pour marcher. Marcher, courir, sauter, mais surtout marcher, donc la rando c'est excellent. Les gens qui me disent que la rando c'est pas du sport, en général quand je les emmène avec moi un week-end, que je leur mets un sac de 15 kg dans le dos, qu'on marche 25, 30, 35 km par jour, et qu'on fait un petit peu de dénivelé, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme dénivelé? Dites-nous, les Auvergnats, ce qu'on pourrait trouver comme dénivelé dans le coin. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait trouver un peu... Où est-ce qu'il est? Je vois plus en retour caméra. Eh, hey, ce serait pas le Sancy en neige, ça? Waouh, trop fort. Et là, toute la chaîne des puits, le puits de Dôme le plus haut à 1465 mètres. Magnifique. Donc au final, la rando, c'est pour les vieux et c'est pas du sport, mais quand tu commences à te bouffer 25 bornes par jour avec un sac de 15 kg derrière et en te bouffant 1000 mètres de dénivelé, en fait, ça remet un peu les compteurs à zéro. Et tout d'un coup, si, la randonnée, le trek, c'est du sport. Allez, quatrième et dernier mensonge très répandu, très répandu encore aujourd'hui, franchement même indéboulonnable. Sur la rando et le trekking, c'est les chaussures hautes, c'est les chaussures les plus sécurisées, les plus sécurisantes pour les pieds. Ah, non, faux. On va prendre un tout petit peu de recul. C'est vrai que pour un randonneur débutant, les vendeurs de chaussures et les conseillers conseillent plutôt d'acheter de la chaussure montante pour pouvoir bien protéger la cheville. En effet, la chaussure montante, elle englobe ta cheville, elle te l'empêche de bien bouger, mais du coup, elle l'empêche aussi de se la tordre. Notamment, si tu fais de la rando en montagne et que tu n'as pas encore le pied montagnard, notamment si tu fais beaucoup de dénivelé, notamment si tu portes un sac très lourd et que tu n'es pas encore habitué au portage du sac, ça peut être intéressant, notamment au début de la pratique, à mettre des chaussures hautes. Par contre, ce qu'on voit, c'est les études statistiques d'accidentologie. Les randonneurs qui arrivent aux urgences avec une entorse ou une cheville fracturée, ils portent 50% des chaussures hautes, 50% des chaussures basses. Donc en fait, sur le terrain, finalement, il y a autant de chevilles pétées, fracturées avec de la chaussure montante qu'avec de la chaussure basse. Et je vais en rajouter une couche, les chaussures basses, pour les gens qui ont les chevilles sensibles, c'est de la merde. C'est les pires chaussures qu'on puisse avoir. Une chaussure basse, il y a quand même du drop sous le talon, et ça c'est mauvais pour la démarche naturelle du corps. Et une chaussure basse, il n'y a pas l'allongement de la chaussure vers le haut qui te maintient la cheville. J'ai été hyper lax au niveau des chevilles, et beaucoup de gens qui ont les chevilles fragiles, les chevilles trop souples, hyper laxes, se font des entorses à répétition avec les chaussures basses. Il ne faut surtout pas en mettre, chaussures de trail, c'est pareil. Si t'as l'entorse facile, la cheville fragile, alors c'est soit chaussures montantes, soit chaussures minimalistes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Si tu me suis sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, tu vois certainement que je marche avec des trucs bizarres comme ça. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est des chaussures Vitrek de chez Vibram, mais on va dire c'est des chaussures minimalistes, des chaussures barefoot. Quand je marche avec ça, j'ai l'impression de marcher pieds nus. Mes orteils sont individualisés, comme tu peux le voir, et ça permet en fait d'avoir un maximum de proprioception. De plus, la semelle est super fine, on a 7 ou 8 mm de mémoire de semelle en tout sur ce modèle, ce qui fait que on a l'impression de marcher pieds nus. Ça nous protège quand même des épines, tiens là c'est bourré d'épines par exemple au bord du plateau de Jerkov. Ça nous protège des cailloux, mais pas trop quand même, il faut faire attention où on met les pieds. Et là, je retrouve une démarche à peu près naturelle. Il n'y a pas de drop sur la chaussure, et le drop, c'est vraiment pas bon. On a une chaussure super légère, je crois que ça pèse, je sais plus, 160 ou 180 grammes maximum de mémoire. Donc vraiment super léger, super flex, peut faire un beau déroulé de pied, réutiliser mes orteils, et comme tu le sais certainement, quand on pose le pied au sol, les orteils s'élargissent quand on arrive à ce niveau-là. Une chaussure rigide ne permet pas ça. Là, depuis 2 ans que je porte plus que ça, je suis en train de remuscler à fond mes pieds. Mais pas que, je remuscle mes chevilles. Comme on l'a dit à l'instant, j'avais les chevilles hyper laxes quand j'étais adolescent, je me faisais une entorse par an, une vraie catastrophe. Je les ai remusclées, fini les entorses. Les mollets sont renforcés, les genoux, alors que j'avais mal au ménisque, surtout au ménisque droit, juste ici, c'était une catastrophe. Ça va beaucoup mieux, les quadris, les ischios, les jambes, bref, tout mon corps est en train de se remuscler avec ce genre de petites chaussures. C'est vraiment un truc de ouf. Bien, ça m'a fait plaisir de débunker ces 4 mythos avec toi. On rappelle, le premier, il faut pas nécessairement du matos cher pour partir faire des grosses randos. Pas forcément. Même si c'est sûr que c'est un peu plus agréable d'avoir du matos plus cher parce qu'il sera plus léger. Deux, la rando, c'est pas que pour les vieux. Il y a aussi des jeunes qui font de la rando. En général, ils appellent ça du trek pour pas se faire prendre pour des vieux, par des vieux, par leurs copains. Et il y a même des assos de jeunes qui font de la randonnée maintenant, même en France. Trois, la rando, c'est du sport. C'est tellement du sport. D'ailleurs, je suis coach sportif. Et j'ai été le premier coach sportif à mettre en ligne un programme de préparation physique au trek en 2018 de mémoire. Et je t'assure qu'en faisant une bonne prépa physique à la salle toute l'année avant de partir t'éclater dans les Alpes, en Corse ou dans les Pyrénées au mois de juillet quand tu pars, ça fait une sacrée différence. Et 4, en fait, les chaussures montantes, ça protège, oui, mais pas tant que ça, en fait. Les chaussures basses, c'est une catastrophe. Les chaussures de trail, pour ceux qui ont les chevilles sensibles et trop flex. Et les chaussures minimalistes, c'est l'avenir. T'as kiffé cette vidéo? C'est la dernière chance de me remercier, gratuitement, je te rassure, en mettant un pouce, en t'abonnant. Et je te dis à lundi prochain, 18h, pour une prochaine vidéo sur la rando et le trekking. À très bientôt. Ciao.